Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, notre invité est l'universitaire Yehuda Bitti qui nous parle de l'ouvrage qu'il a dirigé, le Séminaire israélite de France, études, écrits, documents et souvenirs, paru aux éditions du Cerf. Bonsoir Yehuda.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quelques mots de présentation pour débuter. Vous habitez en Israël. Vous êtes docteur en philosophie juive, maître de conférences à l'Institut académique Herzog en Israël, où vous avez fondé le département d'éducation juive, spécialiste de l'histoire de l'éducation juive moderne. Vous êtes présent avec nous aujourd'hui en France pour présenter un ouvrage que vous avez dirigé, le Séminaire israélite de France, études, écrits, documents et souvenirs, qui est apparu aux éditions du Cerf. Le Séminaire israélite de France est une institution unique, créé en 1830 à Metz, transféré ensuite à Paris au 9 rue Vauquelin. Il a formé les rabbins qui ont accompagné la communauté juive française à travers deux siècles d'histoire, de l'émancipation aux défis contemporains. À l'approche de son bicentenaire, ce livre vient combler un vide historique et documentaire en rendant enfin accessible une mémoire collective essentielle. La première question qui s'impose, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé à consacrer un ouvrage à l'histoire du Séminaire israélite de France?
Eh bien, en fait, tout a commencé, comme ça se passe très souvent, par une découverte un peu par hasard, ou à l'occasion de différentes recherches sur l'éducation juive au XIXe siècle. J'ai donc effectivement vu que ce séminaire que je connaissais, puisqu'il continue de fonctionner toujours à Paris, donc également actuellement. Et donc j'ai trouvé un livre qui parlait du séminaire qui avait été publié en 1930. Ce livre était fait comme on le faisait à l'époque. Il a été écrit par l'ancien directeur du séminaire. Il s'appelait Jules Bauer. Et il était fait comme on faisait à l'époque, la petite histoire. On racontait toutes les choses dans les moindres détails. Ça m'a passionné. Et j'ai voulu chercher et voir ce qu'il y avait derrière également.
C'était plutôt apologétique, ce premier livre, alors que là, vous avez fait appel à des universitaires. Est-ce que vous pouvez citer quelques noms de contributeurs ?
Eh bien, effectivement, ce qui était important pour moi, c'était de présenter l'activité du séminaire et l'histoire du séminaire dans un contexte plus large, puisque tout texte dépend en fait du contexte. Ainsi, par exemple, le premier chapitre est un article inédit que j'ai demandé à un jeune historien israélien qui a écrit précédemment sur les séminaires en langue allemande, c'est-à-dire dans l'espace germanique, en Allemagne, en Autriche et en Hongrie. Je lui ai demandé de tracer les grands traits de qu'est-ce qu'un séminaire rabbinique au XIXe siècle. Pourquoi il y a besoin d'une nouvelle formation des rabbins, alors que dans le judaïsme, il y a toujours eu des rabbins. Par exemple, cet article donc, nous donne une perspective différente sur ce qui se passe en France, alors qu'en France, il s'agit du premier séminaire rabbinique en Europe.
Il y a cette date de 1830 qui est importante. On est dans un contexte post-révolution française. Qu'est-ce qui a rendu nécessaire la création d'une école rabbinique nationale à ce moment précis ?
Eh bien, en fait, l'émancipation des Juifs de France en 1791 n'a pas simplement changé le statut civil des Juifs de France, mais également a demandé à une révision de l'identité juive en France au XIXe siècle. Les décrets de Napoléon, ensuite, en 1808, ont créé le consistoire, qui est l'organisation des Juifs de France jusqu'à nos jours. Mais contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, à l'époque, il s'agissait donc avant la loi de séparation entre l'État et la religion. Donc le consistoire est une organisation, une administration de l'État. Cette administration, à travers les décrets de Napoléon, a défini de façon différente les rôles du rabbin. Si on définit de façon différente les rôles du rabbin, eh bien, il faut former les rabbins de façon différente.
Alors, il y a une étape importante, c'est le déplacement de Metz à Paris de ces séminaires rabbiniques. Qu'est-ce que ça signifie d'un niveau à la fois institutionnel et symbolique ?
Eh bien, au niveau institutionnel, c'était installer donc cette école rabbinique où les élèves rabbins étudiaient pendant 4 ans, 5 ans, voire même 6 ans, installés à Paris, Paris la ville des Lumières, Paris à l'époque du Second Empire. C'est rapprocher donc les élèves du centre intellectuel de la France, proche des universités, dans le cadre du quartier latin. Évidemment, c'était quelque chose de nouveau. Le séminaire avant était à Metz. D'un côté, c'est une institution nouvelle, on l'a dit, qui voulait donc donner plus un enseignement général aux rabbins et pas simplement un enseignement centré sur les matières juives. Mais Metz, c'était quand même une communauté, c'était la communauté traditionnaliste de France. la deuxième moitié du 19e siècle, la communauté juive, en grande partie, arrive à Paris, s'installe à Paris, et Paris devient la capitale du judaïsme français. Il était donc de nature évidente que le séminaire arrive également à Paris et prend une nouvelle direction.
Est-ce qu'il est facile de travailler sur ce sujet? Est-ce que les sources primaires sont importantes, faciles d'accès? Je crois qu'il y a une bibliothèque encore aujourd'hui avec des archives au séminaire rabbinique.
Exactement. Le séminaire rabbinique possède une des plus grandes bibliothèques judaïques d'Europe, une vieille bibliothèque avec des dizaines de milliers de livres, dont certaines des premières éditions. Au niveau des archives du séminaire, c'est un peu plus compliqué. Là aussi, également, la guerre a laissé ses traces et certaines archives ont disparu. Certaines archives ont été recensées, d'autres ne l'ont pas en réalité. Mais puisque le séminaire est en fait une des institutions principales du judaïsme de France, eh ben, j'ai réussi à trouver d'autres documents, pas seulement dans les archives du séminaire, qui parlent du séminaire, qui racontent l'histoire du séminaire, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, son activité avec la création du petit séminaire, qui était un petit lycée juifs pour les familles et qui se trouvaient maintenant en zone libre, par exemple, et d'autres documents très intéressants. Certains, je les ai même trouvés à la Bibliothèque nationale de Jérusalem de l'Université hébraïque, qui est en fait la bibliothèque du peuple juif et qui a de nombreuses archives sur le séminaire de façon plus générale sur le judaïsme français.
Il y a une photo en couverture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Alors, cette photo m'est particulièrement chère. J'ai trouvé plusieurs photos du séminaire, une promotion en 1880 où les élèves sont tous habillés en complet avec un petit nœud papillon bien joli, comme on était habillé à l'époque. Et cette photo qui figure dans le livre date de 1946. C'est la première promotion après que le séminaire est rouvert, après donc la libération, après que il a fallu remettre en état le bâtiment qui avait été occupé par les forces allemandes pendant la guerre, retrouver le mobilier, retrouver les livres, réorganiser l'équipe d'encadrement. Et ce qui est intéressant dans cette photo, c'est qu'en fait, les élèves rabbins sont très divers, sont très différents. On peut voir au milieu celui qui deviendra le grand rabbin de Nice, le rabbin Jean Kling, qui était le plus jeune élève, mais qui se figure là donc en uniforme des éclaireurs israélites, puisque c'est là-bas qu'il était. On peut voir également un jeune rabbin qui semble tout timide sur le côté, c'est le futur rabbin Rosen. Il est né en Pologne, il arrive des camps à Paris. Il ne sait pas exactement pourquoi il est arrivé à Paris, il ne parle pas un mot de français. On lui dit « tu es rabbin, va au séminaire ». Il rencontre là-bas le directeur du séminaire, Maurice Liber, qui lui dit « écoutez, vous ne connaissez pas le français, mais vous connaissez la Gemara, le Talmud, le texte de base du judaïsme. Eh bien, je vais vous installer en binôme avec un jeune futur rabbin français, Roger Lévy, qui connaît très bien le français, mais qui ne connaît pas la Gemara. » Donc voilà, ça fait partie des figures qui ont construit ensuite après le judaïsme. C'est une promotion qui est en fait une promotion de bâtisseur.
Alors précisément, le séminaire a formé des générations de rabbins, et vous l'expliquez bien, qui venaient d'horizons différents, qui avaient des aptitudes différentes. Est-ce qu'il y a un rôle marquant qui évolue? Est-ce que le rabbin du début et le rabbin de la fin a des aptitudes ou des caractéristiques particulières?
Eh bien, on pourrait dire de façon générale que le séminaire rabbinique, comme étant en fait un espace d'études, un espace scolaire d'un certain côté, puisque même certains élèves arrivaient au séminaire à l'âge de 15 ans, à l'âge de 16 ans, dans une préparation avant le cycle d'études au séminaire, eh bien, tout espace comme ça d'études est un espace où se rencontrent d'un côté l'histoire intellectuelle du judaïsme, d'un autre côté l'histoire sociale du judaïsme. Donc oui, effectivement, le séminaire change parce que le judaïsme français change. Si les premiers programmes d'études, donc la première moitié du 19e siècle, essaye de créer un rabbin qui symbolise la symbiose désirée entre d'un côté les études juives et d'un autre côté la connaissance du français. C'est quelque chose qui n'était pas évident. Les premiers rabbins ne parlaient pas le français, ils venaient d'Alsace. Donc la connaissance du français, la connaissance de l'histoire de France, de la géographie de France, des langues anciennes comme le latin. Donc ces premiers rabbins étaient en fait donc un citoyen idéal, l'israélite français tel qu'on voulait le créer, tel qu'on espérait que tout le monde, les juifs de France verraient dans le rabbin un modèle d'identification. À la fin du 19e siècle, c'est différent. À la fin du 19e siècle, le séminaire rabbinique est également le centre des études juives en France, le centre des études juives dans le sens également scientifique, une approche différente, une approche scientifique qu'il est possible de concilier avec la tradition juive. Et le modèle maintenant que, du rabbin français à la fin du 19e siècle, c'est en fait un érudit. Non pas un érudit uniquement dans les sciences du judaïsme, mais également dans les autres matières, les autres disciplines autour, un érudit qui est respecté non seulement par ses co-religionnaires, mais également par la communauté scientifique. C'est la fin du 19e siècle, c'est donc un rôle différent du rabbin, une image différente du rabbin, un programme de formation différent.
Aujourd'hui, le séminaire existe toujours. Comment il a évolué? Qui sont les rabbins qui sont formés aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, le séminaire continue de former les rabbins qui seront la plupart du temps employés après dans les différentes synagogues du consistoire. Mais contrairement à ce qui se passait au 19e siècle, le judaïsme français aujourd'hui est un judaïsme qui est plus fragmenté. Certes, le consistoire reste l'institution principale du judaïsme et donc ses synagogues, mais il est possible de trouver d'autres synagogues à tendance plus orthodoxe ou bien d'autres centres culturels comme Lubavitch et de l'autre côté également le mouvement juif libéral qui a créé donc plusieurs communautés à Paris en province. Donc le séminaire continue à former des rabbins pour les synagogues du consistoire plus particulièrement. Mais encore une fois, il s'agit aujourd'hui d'un nouveau type de rabbin. Aujourd'hui, on ne demande pas au rabbin d'être l'érudit qui peut monter en chaire et présenter son savoir académique. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est en fait déjà depuis la deuxième moitié du XXe siècle, sous la direction d'abord du grand rabbin Henri Chili, puis ensuite du grand rabbin Shushna, et également de ceux qui sont venus après au séminaire. Aujourd'hui, le rabbin est quelqu'un qui est engagé dans sa communauté. C'est pour ça que le programme d'études aujourd'hui au séminaire comporte également beaucoup de psychologie, beaucoup de sociologie, des ateliers de communication. On demande, le rôle du rabbin aujourd'hui est différent.
Il y a des destins qui sont évoqués dans ces études, à la fois de directeurs, mais aussi d'élèves. Est-ce qu'il y a des parcours personnels qui vous ont davantage marqué, notamment parmi les directeurs ou parmi les élèves ?
Écoutez, chaque personnalité du séminaire, je découvre un nom, je cherche un peu ensuite après sur sa bibliographie et on rencontre des parcours de vie qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Et certains donc ont eu une grande carrière rabbinique. Je pense par exemple à Lazar Vogue au 19e siècle qui était rentré élève au séminaire à l'âge de 14 ans comme pensionnaire extérieur, très jeune effectivement, qui demande ensuite à continuer encore, de pouvoir étudier encore un an, de façon à se spécialiser de plus en plus au séminaire, et qui retournera au séminaire à l'âge de 33 ans comme professeur au séminaire. Il restera au séminaire à enseigner pendant plus de 50 ans, parallèlement à son activité de transmission des textes. Il a écrit plusieurs livres, il a fait de nombreuses traductions, dont la traduction de la Bible. C'est donc effectivement un personnage avec une envergure très particulière. D'autres, par exemple, sont des jeunes rabbins qui ont disparu pendant la Première Guerre mondiale, qui ont disparu comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont commencé donc leurs études, qui ont été peut-être interrompues, comme le rabbin Bloch, qui a été déporté après une très courte carrière, mais qui était impressionnante. Et évidemment, lorsqu'il s'agit des rabbins qui ont redonné un nouvel envoi au judaïsme après la guerre et après l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, alors, je suis à côté de la personnalité du grand rabbin Sirat, qui a grandi au séminaire, qui était le premier rabbin séfarade, comme il l'indique en disant je venais de ma ville d'Algérie, c'était tellement difficile pour moi d'être tout jeune, de voir un judaïsme différent. Mais il est arrivé au séminaire à l'âge de 17 ans, à la demande de son maître, le grand rabbin Naouri, qui ensuite également, en France 62, arrivera et séjournera un court moment au séminaire. Lorsque le rabbin Naouri lui avait dit « Le judaïsme de France a besoin de toi comme il a besoin de nouveaux rabbins ».
Vous avez parlé à plusieurs reprises de la période sombre de l'occupation. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Est-ce que le séminaire a été déplacé? Il a été fermé?
Bien, le séminaire, évidemment, a quitté Paris, de la même façon que les institutions juives officielles ont quitté Paris avant juste la période donc, de l'entrée des Allemands à Paris. Il s'est retiré donc, en zone libre. Il a un court passage à Lyon, ensuite il s'est installé à côté de Limoges. Et là-bas, il a fallu travailler pour ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire la situation du judaïsme en France. Alors d'un côté, sa première mission, sa mission vocatrice, est donc de former les rabbins pour après. Mais il s'agit d'abord de s'occuper de maintenant. Donc les enseignants du séminaire qui ont également quitté Paris, ceux qui étaient également rabbins, se sont trouvés à la tête de nouvelles communautés, des juifs qui venaient d'Alsace, des juifs qui venaient de Paris, qui étaient installés. De la même façon, le séminaire, je crois que je l'ai dit précédemment, a organisé donc un petit lycée qui s'appelle le séminaire, où enseignaient de prestigieux enseignants, certains qui étaient enseignés à l'université précédemment, qui, avec le statut des juifs, se sont trouvés sans travail, interdiction de travail dans la fonction publique. Ce lycée donc était destiné à des élèves juifs qui avaient commencé également chacun dans sa ville des études de lycée, des études secondaires, et qui ensuite maintenant se retrouvaient donc en France, dans la France libre, à l'intérieur de ce petit séminaire. D'autres élèves rabbins jeunes sont devenus aumôniers et visitaient souvent les populations déplacées ainsi que les populations juives dans les camps de prisonniers dans le sud de la France, et apportaient non seulement un réconfort spirituel, une écoute, et également ce qui était possible pour l'organisation des prières juives selon le calendrier juif, apporter des matzot pour la fête de Pâques juive, etc.
À vous écouter, on voit que cette histoire est très riche. Vous nous parliez du grand rabbin Jules Bauer qui avait commencé une sorte de synthèse. Pourquoi personne n'a publié, d'après vous, sur ce sujet depuis tant d'années? On vous attendait?
Merci. Je crois que tout simplement, il s'agit de certaines choses qui semblent évidentes et qui sont des institutions qui sont tellement évidentes, qui sont au cœur du judaïsme, que tout le monde en a entendu parler très vaguement. Mais elles nous semblent tellement évidentes qu'on n'a pas toujours le regard qu'il faut donc pour comprendre leur rôle et leur implication dans le judaïsme français. Et un des lecteurs de ce livre, quelqu'un qui est versé, qui est bien installé dans ses connaissances du judaïsme français, m'a dit « C'est très intéressant que les différents historiens qui ont contribué à cet ouvrage ne sont pas d'origine française. » Sauf notre ami Jean-Claude Kuckermann, qui est le bibliothécaire de la bibliothèque de l'Alliance. Il m'a dit, mais j'ai l'impression donc que ces gens qui sont à l'extérieur, qui ont un attachement à la France et qui ont des connaissances du judaïsme français, eh bien justement parce qu'ils sont à l'extérieur, ont vu quelque chose que nous, en France, nous ne voyons pas toujours.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Yehuda Bitti, qui nous parle de l'ouvrage qu'il a dirigé, le Séminaire israélite de France, études, écrits, documents et souvenirs. Vous nous parlez des passerelles. Est-ce que le séminaire rabbinique a joué un rôle important, pas seulement au sein de la judaïcité, mais aussi dans ses relations avec le monde politique, institutionnel, non juif?
Eh bien, comme ces grandes institutions, donc au XIXe siècle, d'abord, il faisait partie de l'administration française, évidemment. Le XXe siècle, c'est différent, mais c'est un organisme représentatif. Donc, évidemment, à certaines cérémonies, les séances d'ouverture, par exemple, de l'année de formation, eh bien, certaines autorités donc étaient présentes, évidemment. Mais de façon, disons, beaucoup plus... Je veux dire, par rapport au séminaire, il se concentrait beaucoup plus sur ce qui s'est passé dans les quatre murs du séminaire et à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que dans ce bâtiment, 9 rue Vauquelin, il n'y a pas seulement des salles de cours, mais il y a également des chambres pour les élèves qui sont donc pensionnaires à l'intérieur du séminaire, et également des appartements qui étaient occupés par le directeur du séminaire et par certains enseignants. Il y a également à l'intérieur de ce bâtiment une synagogue qui a été fondée dès le départ, de façon à créer un lieu qui ne soit pas simplement un lieu de prière, mais qui soit un lieu de formation pour ces futurs rabbins qui faisaient l'office à l'intérieur de la synagogue, le Shabbat, le samedi et les jours de fête, qui présentaient leurs sermons à ces occasions, sermons qui étaient préparés à l'avance et qui étaient donc revus ensuite après avec les directeurs d'études, une synagogue qui continue à fonctionner, dans laquelle ils voyaient également leur maître, le directeur du séminaire, comme étant un rabbin de communauté. C'est fort dans beaucoup de souvenirs, par exemple, sur le grand rabbin Emmanuel Shushna, qui était le premier directeur du séminaire, d'origine séfarade, qui était directeur du séminaire dans les années 70 et 80. Parallèlement, il était donc, je dis parallèlement, mais c'est faux, ce n'est pas en parallèle qu'il était le rabbin de la synagogue, puisque ça fait partie de sa fonction. Et pour les élèves, c'était un exemple vivant d'un rabbin qui sait écouter sa communauté, qui sait parler à sa communauté, qui a des contacts avec les membres de sa communauté. Il voyait le regard qu'il portait, les élèves voyaient le regard qu'il portait sur sa communauté, sur les gens qui étaient proches, qui venaient également à la synagogue. Et ce rabbin, le grand rabbin Shushna, n'hésitait pas également à sortir du séminaire pour visiter les écoles juives, pour visiter les mouvements de jeunesse, j'ai trouvé par exemple une photo dans laquelle on le voit assis par terre avec les animateurs de mouvements de jeunesse et une guitare à la main. C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. On l'a dit, vous êtes spécialiste de l'éducation juive moderne, de son histoire. Est-ce que on peut établir des liens ou définir des particularités par rapport à d'autres séminaires en Europe ou peut-être même en Israël aujourd'hui?
Parlons d'abord de l'Europe. Il y a une particularité. On a dit, je l'ai dit tout à l'heure, donc le séminaire rabbinique est une institution qui est présente également dans les grandes communautés d'Europe, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Hollande même. Mais il y a une particularité au séminaire israélite de France qui, pour dire la vérité, est une particularité commune également au séminaire italien qui se trouve à Rome. Et cette particularité est que c'est le séminaire qui est une institution communautaire et qui forme les rabbins pour toute la communauté, encore une fois, jusqu'à ces dernières années. En Allemagne, par exemple, on pouvait rencontrer un séminaire de tendance orthodoxe et un séminaire de tendance libérale. C'était une vision différente du judaïsme, sur certains points opposés. Opposés, entre guillemets, puisque ces deux séminaires, par exemple, avaient été à Berlin, dans la même rue, à 50 mètres l'un de l'autre. Et on peut facilement donc imaginer les étudiants du séminaire orthodoxe qui rencontrent les étudiants du séminaire libéral lorsqu'ils sont assis à la même station de bus de l'autobus qui va les amener à l'université Humboldt qui se trouve à quelques minutes, puisque en Allemagne, par exemple, tous les étudiants des séminaires rabbiniques en même temps étudient donc à l'université, ce qui en France n'a pas toujours été le cas. Donc en Allemagne, le séminaire répond à une tendance du judaïsme. C'est ce qui se passe également aujourd'hui aux États-Unis, par exemple. Il y a 3 séminaires rabbiniques aux États-Unis selon les différents courants du judaïsme américain. En France, il s'agit d'un séminaire qui a formé des rabbins pendant 200 ans, un séminaire, c'est-à-dire un institut formateur dont le directeur a lui-même été formé dans cette institution. Il y a donc une certaine continuité, un esprit collégial particulier qui est propre. Malgré les différences, malgré donc les différences, les différentes formes de formation, le rôle de rabbin qui continue, qui est différent donc à chaque époque, il y a une certaine continuité dans cette institution. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est commun également au Collegio Rabbinico de Rome. Effectivement, également, il s'agit là-bas de la même chose, mais c'est particulier. Et en Israël, pour terminer, c'est tout à fait différent, puisque en Israël, le diplôme rabbinique est une validation de connaissances. De connaissances uniquement en matière juive et plus particulièrement dans le domaine de la loi juive. La formation et en fait l'étude de ces textes, l'apprentissage de ces connaissances qui peut être fait dans des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'institutions. Donc il n'y a rien en commun au rabbin israélien, mis à part le fait de la maîtrise de ces connaissances. Ce qui explique comment le judaïsme israélien est d'un côté un judaïsme d'État, puisque le rabbinat israélien est un rabbinat donc d'État, mais les rabbins israéliens sont très différents. Ils n'ont pas la même formation qu'on peut avoir donc dans les séminaires européens.
Le judaïsme français traverse une période particulière. Même avant le 7 octobre, il était déjà confronté à des défis contemporains. Est-ce que vous pensez que dans cette situation difficile, le séminaire israélite de France a un rôle à jouer?
Il me semble, mais je ne pourrais pas non plus, ce n'est qu'un conseil, même pas un conseil, c'est une pensée qui me traverse. Sans plus, je ne peux pas me permettre d'Israël de porter un regard plus profond donc, sur ce qui se passe aujourd'hui en France, vu l'éloignement donc, géographique, et social et même communautaire. Mais il me semble que le séminaire, de la même façon que les autres institutions juives de France, doivent beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir. Réfléchir non pas sur ce qui se passe aujourd'hui, mais sur ce que nous voulons que ce qui se passe devrait se passer demain, après-demain, dans les prochaines années. Quelles sont les différentes directions au sein du judaïsme français? Quelles sont les différentes directives à prendre? Et comment préparer donc les futurs cadres communautaires dans le sens le plus large, puisque aujourd'hui, le rabbin est un cadre communautaire, mais un cadre à côté d'autres cadres communautaires.
L'universitaire israélien que vous êtes, réagit-il comment face au boycott de certains universitaires français, et dont certains d'ailleurs sont juifs, hein, et notamment par rapport à ce colloque sur les Juifs de Paris. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, évidemment, c'est fort regrettable. Évidemment, c'est fort regrettable sous différents points de vue. Je ne veux pas revenir sur des choses que nous avons beaucoup entendues cette semaine, mais c'était quelque chose qu'on ne pensait pas, qu'on ne supposerait pas qui se passerait. Je peux me permettre quand même de rajouter que la semaine dernière, j'étais à un autre événement académique qui avait lieu à Aix-en-Provence, avec la collaboration de l'Association pour l'enseignement de l'hébreu à l'université en Europe, en particulier en partenariat avec l'Académie de Marseille, l'Université de Marseille, d'Aix-en-Provence. Et c'était donc un congrès qui réunissait 100 intervenants, dont facilement les deux tiers venaient d'Israël et les autres de pays d'Europe. Et ce congrès s'est tenu loin des phares, mais étant un congrès qui était très intéressant et très fructueux. Les échanges étaient très fructueux. Là, de notre côté, il fallait regretter que le grand effectif des intervenants était israélien. Mais je crois que ça veut bien dire que quelque chose continue au niveau des études juives dans l'Académie en France. Les choses continuent. Certains événements se trouvent sous les phares. Heureusement que d'autres ne sont pas et que chaque chercheur de son côté continue à faire avancer la science du judaïsme et notre compréhension, notre savoir et la diffusion de ces choses.
Alors justement, sur quel sujet vous travaillez actuellement ?
Eh bien, après ce livre sur le séminaire israélite juif de France, j'ai voulu retourner à un projet qui était en fait, de mon côté, le premier projet éditorial. J'avais pensé il y a quelques années, mais je ne me sentais pas assez capable de le mener à bien. Et il s'agit d'un second ouvrage sur lequel je travaille actuellement, qui s'intitule « Une histoire de l'école juive, anthologie de l'éducation juive en France au 19e et au 20e siècle ». Alors nous sommes toujours dans le même champ d'investigation, mais de façon beaucoup plus large. Ce n'est pas une institution, ce n'est pas une école, c'est l'enseignement juif en France. Ce n'est pas simplement l'enseignement dans les écoles, c'est également les mouvements de jeunesse, c'est également les maisons d'enfants, c'est également un regard sur les manuels scolaires au 19e siècle, au 20e siècle, sur la formation des enseignants, le regard des enseignants également à l'intérieur de ce qui se passe. Donc c'est le même champ d'investigation mais plus large, et je prends également la même démarche méthodologique qui consiste à présenter un ouvrage à un large public qui peut intéresser également les gens qui sont vraiment intéressés au point de vue académique par ce sujet, mais également les gens pour qui l'éducation juive est un sujet qu'ils tiennent à cœur. Donc il y aura des études et des documents, beaucoup de documents très intéressants. Je crois personnellement à l'importance de présenter directement les documents au public, sans passer à travers les lunettes de l'expert. Certes, c'est important, et c'est pour ça qu'il y a également des articles d'analyse ou de synthèse pour créer le contexte, afin de comprendre vraiment les documents. Mais le contact direct avec un document écrit il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a 50 ans, c'est en fait ouvrir une fenêtre sur un personnage, sur une communauté, sur une situation qui n'est plus, mais que nous pouvons toucher, imaginer à travers le document.
Eh bien, ça s'annonce passionnant. Il y a une question classique, mais non moins difficile, pour terminer cette émission. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Eh bien, je leur dirais que c'est un livre qui ne se lit pas du début jusqu'à la fin. C'est un livre qui ne se lit pas de la page 1 à, je crois, 280. C'est un livre qu'on feuillette. C'est un livre sur lequel on s'attache plus particulièrement à une phrase, un paragraphe. Je ne lis pas une photo, puisqu'il n'y a pas de photo mise à part sur la page de garde. C'est un livre sur lequel on voit des titres, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. C'est un livre qu'on feuillette. Mais je crois que c'est un livre où, après donc, ce regard, qui va donc dépendre de l'intérêt de chacun et du temps de chacun à consacrer aux choses, je crois que c'est un livre où on referme et on a un certain sourire sur le visage.
Merci infiniment, Yehuda Bitti, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir donné par cet ouvrage un éclairage important sur une institution centrale dans l'histoire du judaïsme français qui s'avère finalement méconnue. À travers ce travail collectif, vous redonnez vie à des figures, des récits et des documents qui nourrissent notre mémoire et éclairent notre présent. Merci beaucoup. Et évidemment, hein, j'invite vivement nos auditrices et nos auditeurs à découvrir cet ouvrage. J'en rappelle le titre, le Séminaire israélite de France, études, écrits, documents et souvenirs, qui est apparu aux éditions du CERF. Et puis à très bientôt, peut-être pour votre nouvelle publication. Bonsoir.
Merci et bonne lecture.